I started my professional activity.
J'ai débuté ma vie professionnelle en tant que neurologue. J'ai essayé de soulager mes patients névrosés. J'ai découvert des faits nouveaux et importants sur l'inconscient. De ces découvertes est née une nouvelle science, la psychanalyse. J'ai dû payer le prix fort pour ce petit bout de chance. Finalement, j'ai réussi, mais la lutte n'est pas encore finie.
Histoire 2, Patrick Boucheron sur France Inter.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous avez entendu cette voix, comme elle vient de loin? C'est la voix de Freud, enregistrée le 7 décembre 1938 à Londres par la BBC, le seul enregistrement connu à ce jour. Il est alors à bout de force, affaibli par la maladie, accablé par la montée du nazisme. Après une vie de lutte, comment le découvreur de l'inconscient pourrait-il dire autre chose que cela? Le combat continue. Le combat pour la psychanalyse, oui, sans doute, mais aussi le combat politique pour l'émancipation. Mais aujourd'hui, à juger par la hargne qu'elle suscite, on pourrait croire que la psychanalyse n'a rien perdu de sa force subversive. Mais son tranchant est peut-être émoussé par la fétichisation dogmatique de cette parole d'autorité. Freud, Lacan, les pères de la psychanalyse. Comment s'émanciper de leur tutelle, sinon en la renvoyant à sa propre historicité, ce qui est une manière de la repolitiser. Ça tombe bien, on fait ici une émission d'histoire, parce que on ne peut se résoudre à laisser le passé au repos, ni à parler une langue morte à l'ordinaire. Et surtout, vous allez l'entendre, de la joie. Bousculée par le rire des féministes, troublée par les études de genre, transformée par les nouvelles manières de penser les catégories sexuelles, le vieux Freud reprend des couleurs, Lacan perd de sa superbe, et surtout, la psychanalyse à nouveau prend langue avec la société d'aujourd'hui. Renouer avec la subversion, voilà ce que nous propose Laurie Loffert, bientôt rejointe par deux sociétaires du jour, Ludivine Bantigny et Paulin Ismard. Laurent, Laurie Loffert, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychanalyste, directrice du Centre de recherche psychanalyse, médecine et société, et vous êtes professeur à l'Université de Paris-Cité. Votre dernier livre paru à la Découverte, on l'a entendu, s'intitule « Pour une psychanalyse émancipée », sous-titre « Renouer avec la subversion ». Alors on va être subversif, on va commencer, on va être foufou quoi. Je vais pas vous poser une question sur « En thérapie ». Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal ça.
Eh bien, je trouve que votre question qui n'est pas posée est tout à fait intéressante.
Bah ouais, c'est intéressant parce que finalement, un psychanalyste à la télévision, c'est devenu au fond quelqu'un qui parfois assène des vérités, parle de papa-maman, alors que là, malgré tout, avec cette série, quoi qu'on en pense, si on veut être juste avec le docteur Dayan pour paraphraser Foucault, c'est une autre image de la psychanalyse. Comme pratique, comme cure, comme accueil de ce qui vient, de ce qui arrive, c'est-à-dire politique. Et au fond, c'est peut-être par la pratique qu'on peut ne pas décourager, totalement se décourager de la théorie. C'est ce qui vous est arrivé, non, Laurie Loffert?
Oui, tout à fait. En fait, je trouve que cette série, alors... Pour ne pas répondre à votre question,
oui,
qui n'est
surtout.
Pas posée, cette série, en fait, je la trouve tout à fait à la fois nécessaire et ma foi, assez réjouissante. Vous parliez du rire tout à l'heure, je n'ai pas forcément drôle, mais je la trouve réjouissante dans le contexte actuel, où il s'agit souvent de détester la psychanalyse, ou en tout cas d'en extraire toujours des paroles un peu dogmatiques, un peu difficiles, un peu de l'ordre de l'expertise. Eh bien là, je trouve que l'on voit très bien, via le personnage de Maurice Dayan, le docteur Dayan, on voit très bien comment, en fait, ce qui est au centre de cette affaire, c'est vraiment la pratique et ce qui se dit à l'intérieur d'une séance d'analyse.
Un art d'écoute aussi, et de consolation, puisque vous avez travaillé, Laurie Loffert, sur le deuil, sur la mélancolie, vous avez publié, réédité, préfacé une très belle édition du texte de Freud, Deuil et mélancolie. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit aussi dans la cure?
Parfois il s'agit de consoler, parfois il s'agit de créer les conditions d'une autoconsolation, si je puis dire, c'est-à-dire comment le sujet qui vient parler de ce qui le blesse, le heurte, de ce qui le rend parfois dans une impossibilité à vivre, eh bien, de créer les conditions pour qu'il entende ce qu'il a à dire de ce qu'il a de vivant en lui, en fait.
Et cette écoute, vous la rendez aussi accueillante au murmure de l'art et de la littérature. Murmure de l'art à la psychanalyste, elle est le titre de votre avant-dernier livre qui est paru chez Hermann, où il y a des textes de Romain Gary ou des textes d'Édouard Levé, par exemple, qui viennent non pas conforter, mais au fond bousculer le rapport entre psychanalyse et consolation. J'ai beaucoup aimé aussi votre texte sur Pérec comme oubliographe. Il y a quelqu'un qui n'écrit pas pour se souvenir, mais pour, au fond, délimiter dans ce qu'on n'a pas su ou ce qu'on a peut-être déjà oublié, ce qui ne passe pas et pourra permettre de relancer la mémoire.
Il y a une très belle phrase de Georges Perec que je tente de déplier un petit peu dans cet ouvrage. Je crois que c'est dans son texte « Je suis né ». En fait, Georges Perec dit une chose que je crois très importante, y compris pour la psychanalyse. Il dit « La question n'est pas pourquoi continuer, mais comment continuer ». Et je trouve que c'est intéressant, y compris pour ce que l'on peut avoir comme idée préconçue de la psychanalyse, où il faudrait revenir à, justement, vous le disiez tout à l'heure, à papa, maman, l'enfance, etc. C'est pourquoi je suis comme ça, pourquoi. Et en fait, la question que pose Perec, c'est non pas pourquoi, mais comment. Comment continuer comment lorsqu'on continuer est pris dans ses propres entraves, quoi.
En prenant langue avec l'art et la littérature, c'est votre méthode, en fait, Laurie Loffer. Et justement, pour que la psychanalyse ne parle pas une langue morte, le dernier chapitre de ce livre, votre livre précédent, va venir au suivant tout de suite, évoque un roman de Simone de Beauvoir, Les Mandarins, qui est paru en 1954, je crois, et qui met en scène une psychanalyste un peu dogmatique. Le monde vacille autour d'elle. Elle s'accroche à une conception, voilà, un peu rigide de l'analyse jusqu'au moment où elle lâche prise. Et elle admet, je cite, que ces valeurs, si on voulait les sauver, il fallait les réinventer. Ben, c'est ce que vous proposez.
Je ne sais pas si je propose une réinvention. En tout cas, je tends vers quelque chose qui serait non pas de continuer de commenter ou de penser que la psychanalyse est hors son histoire, l'endroit où elle se trouve, mais j'ai trouvé que le livre de Simone de Beauvoir sur les mandarins était précisément une amorce tout à fait intéressante de comment penser aujourd'hui la psychanalyse dans le contexte historique dans lequel elle se trouve.
Oui.
Et c'est vrai que c'est un métier, le métier de psychanalyste est un métier exigeant dans ce sens-là, c'est-à-dire il convient sans cesse de réinventer en permanence ce qui, avec le sujet qui vient ou l'analysant qui vient, de réinventer quelque chose par rapport à sa propre vie.
Et ainsi, on ne sauve pas seulement Freud, comme vous l'écrivez, alors cette fois-ci, dans pour une psychanalyse vers une psychanalyse émancipée, mais on revient à ce qui fait le tranchant subversif de l'invention de la psychanalyse, écrivez-vous. Alors voilà, on peut commencer par là, et puis on va parler de sexualité, parce que d'une certaine manière, 1905, trois essais sur la théorie sexuelle de Freud, une sexualité qui ne se ramène pas au sexe, qui découvre son intrication avec la cruauté, parfois la névrose. Voilà ce qui est quand même pleinement subversif.
Ce qui est subversif en 1905, c'est la façon dont Freud va dire plusieurs choses assez simples, d'une certaine façon, concernant la sexualité. C'est qu'il va dépathologiser toute forme de sexualité. Voilà. Et il va parler de variations sexuelles, et en cela, il se démarque complètement de la psychiatrie de son temps qui parlait de, avec des guillemets bien sûr, de déviance sexuelle lorsqu'il s'agissait de pratiques qui n'étaient pas hétéronormatives ou hétérosexuelles, pour le dire comme ça très rapidement. Et donc ça, c'est vrai que le premier point très subversif, c'est les trois essais sur la théorie sexuelle, c'est la dépathologisation du fait sexuel humain dans toutes ses dimensions.
Oui, et alors d'un côté, effectivement, il y a ça, et en même temps, bah, voilà, c'est un homme de son temps, c'est-à-dire qu'il va penser la sexualité à partir du sexe de l'homme, il va penser quand même, malgré tout, l'homosexualité à partir de la norme hétérosexuelle, et vous le dites d'ailleurs, lorsque, parce qu'il a beaucoup varié aussi, en 1932, il fait sa grande conférence sur féminité, qui est ambiguë, mais ces malentendus qui sont intéressants, bah, il y a déjà, on n'a pas à le juger à partir d'aujourd'hui, mais il y a d'autres propositions. Par exemple, en 1929, la psychanalyste anglaise Joanne Rivière a écrit dans La féminité en tant que mascarade que l'éternel féminin n'existe pas, que c'est en somme un rôle qu'on endosse, comme un habit dont on se revêt pour contenter le père. Donc, à ce moment-là, d'une certaine manière, Freud est devant des choix qu'il fait et qui sont ceux aussi de son temps.
Ce qui est très intéressant dans la conférence de 1932 sur la féminité, vous l'avez rappelé, c'est d'abord les malentendus qu'elle a suscité auprès d'un certain nombre de féministes. Mais si on relit le texte de Freud, rapidement, il commence par cette phrase effectivement invraisemblable qui a, à mon avis, fait rire beaucoup de féministes, on y reviendra probablement, où il dit « les femmes n'ont rien inventé si ce n'est le tissage et le tressage ». Bon, après, il fait la démonstration des raisons pour lesquelles c'est de ce point de vue-là. Mais alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas très bien si il reprend à son compte ce qu'il dit ou s'il il renvoie ça à son auditoire de médecins en leur disant « voilà l'opinion dans laquelle vous êtes ». Parce qu'un petit peu plus loin dans la conférence, il dit « attention, il faut quand même prendre en compte les organisations sociales qui réprime ou qui oppresse les femmes. » Et ça, c'est ça qui est intéressant dans cette conférence. C'est-à-dire qu'on peut commencer par dire Freud, en fait, il naturalise, il essentialise les femmes. Voilà, il considère qu'il y a une nature féminine. Hein. Et puis un petit peu après, dans la conférence, il dit, en fait, c'est pas si sûr. Il y a quand même une organisation sociale qui produit, hein, qui construit aussi les formes des féminités.
Avec Michel Foucault, avec les études de genre, avec, d'une manière générale, une lecture féministe de la psychanalyse, vous faites jouer ces contradictions, pas pour mettre en accusation Freud, mais justement pour bousculer les dogmes psychanalytiques. La psychanalyse devient un féminisme manqué, pour reprendre votre expression, et au fond faire retour à ce refus originel de tout système.
Absolument.
C'est quand même très d'actualité, parce que en 2019, Paul Preciado donnait devant une assemblée de 2000 analystes une conférence qui sera publiée plus tard sous le titre « Je suis un monstre qui vous parle ». Il demandait que l'on prenne ses responsabilités face aux transformations des catégories du genre, et dans une lettre de remerciement qu'il lui adresse, le psychanalyste Stéphane Habib rappelle que les huées de la salle qu'il a subies ne sont pas sans rappeler celles qu'on entend dans le film de John Huston sur Freud, où le jeune Freud est face à l'Académie de médecine.
D'une certaine façon, les mots que l'on a entendus juste au début de l'émission, où Freud dit « j'ai dû payer le prix fort et la lutte n'est pas finie », je pense que Preciado pourrait
les endosser aussi.
Pourrait les endosser, c'est-à-dire qu'il dit très bien que la psychanalyse aujourd'hui est face à une mutation. Ce sont ses propos lorsqu'il fait sa conférence devant un parterre de près de 2000 analystes. Il enjoint ce parterre à, d'une certaine façon, à une forme de soulèvement. Je trouve que c'est intéressant.
Oui.
Hein, c'est-à-dire que, voilà, psychanalystes de tous les pays, soulevez-vous par rapport à ce qui est en train de se passer. Et je trouve que de ce point de vue-là, il est assez audacieux par rapport à ce qui se passe pour la psychanalyse aujourd'hui.
Une psychanalyse émancipée, donc, doit se libérer de cette tutelle, pas forcément celle des mauvais maîtres, mais aussi peut-être celle de l'esprit de sérieux. Le dernier mot du livre appelle à mettre un terme au maître. Vous avez un problème, hein, décidément, les lacaniens avec les calembours. Hein.
Non, je me disais que lorsque la fièvre dogmatique est trop élevée, enfin en tout cas lorsqu'il y a une fièvre qui fait que la psychanalyse s'empêche de respirer, eh bien effectivement il s'agissait de mettre un thermomètre. Quoi.
Histoire 2. Patrick Boucheron sur France Inter.
Ludivine Ventigny, bonjour.
Bonjour.
Vous avez lu le livre jusqu'au bout, donc vous savez ce que ça veut dire, désopiler.
Ah oui, justement, oui. Mais oui, j'ai appris beaucoup de choses dans votre livre, Laurie Loffer, et je les ai apprises joyeusement parce que vous faites correspondre l'écriture à justement la spontanéité joyeuse que vous évoquez aussi à propos des féministes, et, ou en tout cas des premiers mouvements féministes. Et j'ai appris en effet, grâce à vous, l'étymologie et le sens premier du mot désopilant. vous cherchez à désopiler la psychanalyse, c'est-à-dire que dans les traités médicaux des 17e et 18e siècles, on parlait d'une rate qui pouvait être opilée, qui pouvait être obstruée, fermée, bouchée en quelque sorte. Et donc la psychanalyse, à l'instar de cette rate qu'il s'agissait de désopiler, peut être un rire justement subversif. Dans la première partie de l'émission, vous avez beaucoup parlé d'émancipation, de création, d'inventivité, de tranchant subversif. Et c'est très beau parce que vous, il y a de l'humour justement dans ce livre aussi, un mélange d'esprit de jeu et de sérieux, et de l'art, comme ça a été souligné tout à l'heure par Patrick Goucheron. J'ai beaucoup aimé aussi la première métaphore qui ouvre le livre, donc autour de Picasso et Velázquez, comment Picasso avec les Ménines aimant Velázquez, le transfigure en quelque sorte, il ne l'imite pas, ce n'est pas un mimétisme, c'est la différence qu'opérait Méchonique que vous citez entre le mime et le risque. Donc il s'agit de prendre des risques et non pas d'imiter.
Merci docteur, eh bien on continue après la pause musicale. Toujours en compagnie de Laurie Loffer, rejointe par nos deux sociétaires du jour, Paulin Ismar et Ludivine Bantigny, nous désopilons la psychanalyse afin qu'elle ne perde pas, écrivez-vous, Laurie Loffer, son tranchant subversif et afin que ces mots ne s'usent pas en devenant des mots de passe ou pire, peut-être des mots d'ordre. Là est le danger sans doute de la réduction de la pratique psychanalytique au psychanalysme dénoncé par Michel Thor, qui est aussi un paternalisme, Ludivine Bantigny.
Oui, alors ce que j'ai aimé dans le livre de Laurie Loffer notamment, c'est l'idée que la psychanalyse devait retrouver sa libido originelle, et peut-être que par là, on peut retrouver notre propre libido à l'égard de la psychanalyse grâce à justement cette capacité émancipatrice que vous prêtez à la psychanalyse dans ce livre. Et ça m'a rappelé, pour moi c'était des retrouvailles après ce que vous avez vous-même nommé une crise de foi parfois possible à l'égard de la psychanalyse, mais des retrouvailles avec Michel Thor, le psychanalyste qui, en psychanalyste, a aussi contribué à déloger la norme, comme vous le dites très bien dans le livre. Un ouvrage important à mes yeux de Michel Thor, c'est La fin du dogme paternel.
Paru en 2007, tout ça est sur le site, hein, toutes les références sont sur le site.
Une analyse psychanalytique de tous ces discours de Jérémiade, comme il le dit, des grands effondrements, des grands déclins. Il dit bien que la psychanalyse ne saurait être une récitation du « au nom du Père ». Et grâce à vous, on retrouve cet élan, justement, cet enthousiasme. Et ce qui est très beau, c'est que vous le faites évidemment en psychanalyse. C'est ça que j'ai apprécié énormément dans votre travail, comme dans celui de Michel Thor, de Tammy Ayouch ou de quelques autres. Mais somme toute, vous êtes malheureusement minoritaire, me semble-t-il. Mais c'est le faire vraiment déconstruire, le mot est un peu galvaudé, mais déconstruire ce psychanalysme, ce discours de reconduction des normes qu'on peut trouver chez certains psychanalystes qui se forgent en experts, en fait, dans l'espace public et qui, dès lors, reproduisent au fond la domination que vous cherchez précisément à subvertir.
Laurie Loffert.
Ce qui est très intéressant dans le livre que vous évoquez, là, que vous citez de Michel Thor, La fin du dogme paternel, c'est que son livre met aussi en perspective ce qui a irrigué presque de façon religieuse le discours psychanalytique. Quand il parle de la fin du dogme paternel, du nom du père, etc., ce sont aussi des éléments qu'on peut retrouver dans des propos ou dans un vocabulaire quasi religieux. Enfin, quand je dis quasi, c'est religieux.
C'est religieux.
C'est religieux. Hein, et donc, il y a, je trouve, que quelque chose de, une tentative de séculariser, si je puis dire, hein, de rendre dans la vie du siècle ce qu'est une cure, ce qu'est une analyse, sans être pris précisément dans des églises. Voilà, si je continue cette métaphore-là, enfin, dans une église, c'est-à-dire en rappelant que il faut se référer à un nom du Père. On voit bien comment ces formules qui, à un moment donné, ont été utiles à Lacan, à un moment donné, dans un contexte scientifique donné, aujourd'hui risquent, si elles sont gardées comme ça, dans un presque fossilisé, hein, dans une forme comme ça très fixée, hein, risque de rendre, vous le disiez tout à l'heure, la psychanalyse comme une langue morte. En fait.
Oui, au nom du père, au nom des pères, évidemment, dès qu'il s'agit de paternité, de filiation, de reproduction, d'enfant, inévitablement, on s'affole. On se souvient des débats féroces au Parlement et hors du Parlement, d'ailleurs, à l'occasion de la discussion de la loi sur le mariage pour tous, votée finalement le 17 mai 2013. S'y était particulièrement illustré un député assez imaginatif, hein, de l'Aube, Nicolas Duyck, alors affilié à ce qu'on appelait l'UMP. Et dès qu'il s'exprimait, d'ailleurs, ses collègues goguenards s'exclamaient « Tiens, voilà Lacan, on va l'écouter, on comprendra pourquoi ».
N'y a-t-il pas une certaine contradiction, monsieur le ministre, dans vos propos et ceux de votre gouvernement, alors que vous cherchez désespérément à reposer un cadre, un sens, une symbolique, à dans le même temps vouloir soutenir un projet de loi qui va jusqu'à rayer le mot de « père » du code civil, par là même, je sais bien, poussez vos cris d'orfraie, mais ceci est tout à fait cohérent, mes chers amis. Vous provoquerez dans les années à venir la confusion des genres, le déni de la différence des sexes et la psychose, mes chers amis. Et fatalement, cette incohérence idéologique fait que votre système ne peut pas avoir l'efficacité que vous souhaitez avoir.
Paulin Ismar, c'est assez étrange quand même ce passage de mots de la psychanalyse, un peu en vrac, on l'a entendu, mais enfin quand même, dans un discours politique.
Ah oui, c'est tout à fait étonnant. Alors, il y a une historienne qui a réfléchi à cette question-là, Camille Repsis, qui a justement pris pour point de départ ben, cette référence à des pensées subtiles, complexes, celle de Lacan, mais aussi celle de Lévi-Strauss ou de Françoise Héritier, dans le cadre des débats d'abord sur le Pax et puis ensuite sur le mariage pour tous. Elle s'est interrogée en fait sur la façon dont finalement ces pensées avaient pu intégrer le champ politique et plus largement en fait ce qui l'intéresse et ce qui me semble plus important, c'est aussi le droit de la famille en France à partir en gros des années 50-60.
Et son livre s'appelle La loi de la parenté, la famille, les experts et la République.
Oui, voilà, et ce qui est très intéressant, c'est en particulier qu'elle insiste sur des figures de passeurs qui ont été des psychanalystes ou qui ont eu un rapport étroit parfois par exemple avec Lacan et qui en même temps ont joué un rôle important dans l'élaboration, par exemple, du Code de la Famille juste après la guerre. Par exemple, un personnage vraiment intéressant, c'est Georges Moko, qui a été à la tête du Haut Comité de la Population de la Famille, qui a participé à la rédaction du Code de la Famille, qui a été proche de Lacan, qui a été psychanalysé qui a été analysé par René Laforgue, bon, qui a aussi un parcours politique très très compliqué parce que il a été d'extrême droite, il a été collaborationniste au début de la guerre. Bon, et voilà, alors c'est une des figures par lesquelles on peut comprendre ce que Camille Ropsis appelle alors cette expression est assez étonnante, le contrat social structuraliste, hein, c'est-à-dire l'idée que la différence sexuelle est la condition indépassable de l'ordre psychique, mais aussi de l'ordre social. Comment finalement c'est devenu une croyance publique,
oui.
Pour qu'on les retrouve finalement dans
avec cette idée qu'il y a des passeurs, hein, aussi Françoise Dolto d'une certaine manière, Paulin Ispard.
Non, tout en même temps reconstruisant et en affaiblissant complètement une grande partie des propos, par exemple de Lacan, l'idée que par exemple la paternité symbolique est complètement rabattue sur la paternité biologique.
En fait, père symbolique, père biologique.
Oui, enfin, ce que vous dites est tout à fait. Illustre parfaitement la façon dont la psychanalyse, à un moment donné, a été instrumentalisée par le politique à des fins idéologiques. Hein, enfin, pour le dire comme ça rapidement, c'est-à-dire que, d'une certaine façon, les arguments d'autorité liés à une expertise concernant la santé mentale, ça est immédiatement un poids à l'Assemblée nationale au moment de la loi sur le mariage pour tous, au moment du PACS. Un autre psychanalyste qui s'appelle Anna Trella a été l'un de ceux qui a été l'expert, entre guillemets, auprès du Vatican concernant la famille, concernant les enfants, concernant le trouble psychique qu'allaient vivre des enfants qui seraient nés dans des configurations familiales qui ne sont pas normées ou hétéronormées. Mmh. Donc on a à chaque fois l'appel comme ça de certaines institutions de pouvoir auprès d'experts, et je mets évidemment plein de guillemets, auprès d'experts de la santé mentale, alors que la psychanalyse n'a pas grand-chose à voir, comme le disait Lacan, avec la santé mentale.
Oui, ce qui prouve que pour repolitiser, c'est votre objectif, Laurie Loffert, la psychanalyse, il faut sinon la populariser, du moins la repeupler, c'est-à-dire aussi désigner et reconnaître tous ces acteurs. C'est ainsi qu'on peut comprendre, Ludivine Montigny, l'entreprise de Florent Gabaron-Garcia, l'histoire populaire de la psychanalyse.
Oui, il y a des effets d'écho entre votre livre et puis celui de Florent Gabaron-Garcia, donc histoire populaire de la psychanalyse, en ce sens que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous voulez renouer avec l'historicité de la psychanalyse. Elle n'est pas hors de son histoire. C'est aussi l'entreprise menée par Florent Gabaron-Garcia dans cette histoire populaire au sens où il montre, et c'est passionnant, et ça rejoint vraiment beaucoup d'aspects aussi que tous deux vous évoquez. Ce constat que la psychanalyse peut évoluer vers des discours rétrogrades, voire réactionnaires, mais qu'au contraire, elle peut aussi apporter sa contribution à une égalité politique concrète. Et ce qui m'avait passionné dans cet ouvrage, c'est notamment de renouer avec des figures, et en particulier des figures féminines, comme vous le faites, en parlant beaucoup des analysantes et des psychanalystes femmes, et bien sûr aussi des anthropologues que vous mobilisez comme Gail Rubin, avec ce décalage, ce pas de côté politique, ce pas de côté anthropologique, qui nous permet de saisir justement des figures absolument émancipatrice. Florent Gabaron-Garcia rappelle que Freud était soucieux dans les premières années, voire les premières décennies en fait, de la psychanalyse, éventuellement d'une psychanalyse gratuite, d'un rapport au milieu ouvrier. Il y a des psychanalystes comme Vera Schmidt, comme Marie Langer, par exemple, outre bien sûr Wilhelm Reich, etc. Mais vraiment aller dans le sens d'un plaidoyer pour une psychanalyse qui serait ancrée dans le social, comme vous le faites vraiment dans votre ouvrage, y compris bien évidemment sur les questions que vous avez abordées dans la première partie sur la question sexuelle, oui. C'est-à-dire revenir à la polymorphie que Freud évoquait. Je trouve que ce qui est aussi très fort dans votre livre, c'est que tout ça, toutes ces références, l'anthropologie, les féminismes, les courants LGBTQI, OC, of color, enfin, Foucault, tout ça, c'est ce que vous appelez pour la psychanalyse une mise en travail, voilà, ou une mise au travail. Ça permet à la psychanalyse de se renouveler.
Il s'agit de pluraliser aussi toutes ces références pour sortir du nom du père.
Oui, exactement. Pour sortir du nom du père, c'est-à-dire pour sortir, d'une certaine façon, de l'auto-référence permanente du discours de la psychanalyse, c'est-à-dire une psychanalyse qui parle d'elle avec le propre vocabulaire de la psychanalyse. On ne s'en sortirait pas. Et ce que vous dites, Divine, me paraît tout à fait important. C'est-à-dire que ce que j'ai tenté de faire dans ce livre, en tout cas, c'est de montrer comment le corpus théorique, enfin la psychanalyse, peut se laisser instruire par d'autres discours, à la fois par d'autres discours, mais aussi comment elle peut subsister dans le champ social avec cette porosité. Alors c'est ce qu'on appelle repolitiser, c'est-à-dire cette dimension critique qu'elle peut avoir sur sa, à la fois sur sa propre théorie, mais aussi sur sa propre pratique. C'est-à-dire concernant l'argent, concernant les milieux sociaux qui peuvent être concernés pour les analyses. Il y a encore beaucoup d'idées préconçues qui pourraient penser que faire une analyse, c'est pour les bourgeois, c'est cher, c'est dans un cadre très strict, etc. Eh bien, je pense que c'est important de dire, si on veut que la psychanalyse subsiste dans le champ social, qu'il y a beaucoup de psychanalystes qui ont évolué par rapport à ces questions-là. Et je crois que c'est important.
Pour comprendre aussi la fascination pour ce nom du père, comme vous le dites, je crois que c'est pas mal aussi de se remettre dans l'oreille le phrasé. Vous voulez pas qu'on entende un peu du Jacques Lacan, par exemple ?
Avec plaisir.
Ça serait pas mal. Allez, on y va.
Ce que préserve la praxis psychanalytique, ce qu'elle comporte de nature, a changé les fondements de ce qui est mis au titre de l'universel. C'est l'inconscient. Cet inconscient dont on parle sans faire plus que de se fier à une imagerie aussi antique que grossière, mais qui, par Freud, a surgi pour désigner quelque chose de jamais dit jusqu'à lui. Ce qu'il convient d'en articuler comme étant sa structure, c'est le langage. C'est là le cœur de ce que j'enseigne, c'est là aussi, sous sa forme la plus tempérée, que je maintiens de cette voix basse où Freud signale le ton de la raison, ce que j'ai trouvé au départ dans ce retour à Freud.
Ben voilà, le mot est lâché, Laurie Loeffer. Inconscient.
Oui, l'inconscient. Et puis, ce phrasé, comme vous disiez, de Lacan, c'est vraiment un ton dans la psychanalyse. Mmh. C'est une musique, en fait. Je voulais juste dire, associé sur ce que dit Lacan, si je puis me permettre, évidemment, quand il parle de l'inconscient de cette façon, c'est vraiment de dire, voilà, on ne guérit pas de notre inconscient, mais parce que c'est pas une maladie, en fait. On peut pas guérir de nos lapsus, on peut pas guérir de nos actes manqués, de nos maux d'esprit. Heureusement, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que quand on est dans l'expertise de la santé mentale versus l'inconscient, c'est pas exactement les mêmes choses,
quoi. Oui. Il y a une autre manière de réactualiser la psychanalyse, Paulin Ismar, c'est de la confronter avec ce qu'Octave Manoni appelait le démenti du racisme et qui a été remis en jeu, si j'ose dire, par le livre de Livio Boni et Sophie Mendelssohn, La vie psychique du racisme.
Oui, parce que je trouve que c'est un livre très intéressant où des psychanalystes s'avancent sur le terrain des sciences sociales pour essayer de penser en psychanalyste ce qu'est le racisme dans un contexte postcolonial comme le nôtre. Et alors, ils exhument cette figure d'Octave Manoni, qui a été psychanalyste, qui a été aussi avant cela un fonctionnaire de l'État impérial français, qui a été révoqué parce que après avoir soutenu l'indépendance de Madagascar en 1947, et qui vraiment est un des premiers en psychanalyste à avoir réfléchi à la question du racisme et à partir du concept freudien de que parfois on traduit enfin Verleugnung, donc on traduit par déni de réalité ou par démenti en travaillant l'idée de la situation coloniale précisément comme une économie psychique du démenti, donc d'une certaine façon on serait pas encore tout à fait sorti.
Oui, c'est ce qu'il appelle l'énigmatique persistance en fait du racisme.
Oui. Et c'est très intéressant, et je veux dire, du point de vue des historiens ou des praticiens des sciences sociales, c'est à mon avis extrêmement riche.
Et aussi parce que, évidemment, on sait que Octave Manoni s'est jamais vraiment remis des critiques très dures adressées contre lui par Aimé Césaire, par Frantz Fanon, ce qui prouve que, ultimement, ça sera ma dernière question, Laurie Loeffer, il faut toujours ramener la psychanalyse à son historicité propre, c'est-à-dire à l'histoire, voilà, de ce que Michel de Certeau appelait son rapport interne à des conflits de pouvoir et de place, pour justement que la psychanalyse n'oublie pas sa propre histoire, car sinon, écrivait-il, elle devient ou un mécanisme de pulsion, ou un dogmatisme du discours, ou une gnose de symboles. Et c'est ça que vous refusez finalement.
Exactement. Là, je crois que ce que vous dites est absolument essentiel, c'est-à-dire comment refuser d'une certaine façon tout système. La psychanalyse n'est pas un système, elle est inscrite dans une histoire, et il n'y a pas de neutralité ou de objectivité scientifique qui serait propre à cette pratique. C'est une pratique sociale aussi.
Ben, on est à l'heure. Je ne sais pas si c'est très bon signe sur le plan clinique, mais merci en tout cas, Laurie Loeffer, merci Ludivine Bantigny, merci Paulin Ismar.
Merci à vous.
Cette émission a été préparée par Ophélie Vivier et réalisée par Xavier Pestugien. La technique était assurée aujourd'hui par Adèle Caglar. Vous retrouverez toutes les références bibliographiques sur le site de France Inter à la page de notre émission. La semaine prochaine, nous parlerons des enjeux politiques dans le football et au sein de l'équipe de France avec l'historien François Darrocha-Carnero. Bon dimanche sur France Inter.